workshop.
Le paradoxe est l'élément de la philosophie, une complexion de
vrai dans l'arrière-monde.
Ça ne veut pas dire que...
Intercession.
Pourquoi pas une biographie de Jacques Attali sur des connexions
à Bourse.
Je suis très fort.
Rencontre avec Laurent de Sutter qui a inauguré aux Presses universitaires de France la collection Travaux pratiques sont parus chez Travaux pratiques. Après le progrès de Pascal Chabot, visiter le Furkistan ou les illusions de la littérature monde de Camille de Toledo, Résistance philosophique de Véronique Bergen, Gouverner sans gouverner, une archéologie politique de la statistique de Thomas Berns, L'actualité pure, Essai sur le temps paralysé par Cédric Lagandré, Kinotans, l'art chorégraphique du cinéma par Dick Tomasovich, La règle du jeu de Chloé Delhomme et La main gauche de David Lynch de Pacôme Thielman. Nous évoquerons certains de ces ouvrages. Par ailleurs, nous rencontrons très bientôt Véronique Bergen et Thomas Berns, plus spécifiquement. Pour l'heure, entretien avec Laurent de Sutter. Nous avons nommé la rencontre Travaux pratiques, trouée vivifiante dans la chatte footballistique. Intercession.
C'était leur malien, quoi. Qui ont
pas
de contact avec leur mal, qui enseignent encore, qui enseignent à la fac, donc ils sont dans Didier. Ils disaient que même à leur mal, c'était très compliqué. Ils se posaient lui-même la question, les mecs de 25 ans, ils sont où? Alors ils avaient demandé au caïman en place, puis ils avaient vu quelqu'un passer, ils avaient temps, etc. Et je ne sais pas si c'est une rareté bien structurelle ou bien si c'est une question de conjoncture, quoi. Que penser fort me paraît plus productif à beaucoup de gens. Et cette explication qu'il me donnait, il disait que les gamins pensent à leur carrière. Et comme la carrière est devenue ultra compliquée, voilà. Moi ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier parce que la bonne pensée du moment, qu'elle soit de gauche ou de droite, ça me fait chier, quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est les singularités qui rejouent à chaque moment les coordonnées du tout, ou qui tentent. Alors petite mesure, quoi, mais qui tente quand même de s'affronter à quelque chose de grand. Et ça, c'est pas compatible clairement avec une carrière, quoi. Enfin, quelqu'un qui sait qu'un livre, c'est un objet qui a besoin de son propre mode d'existence pour fonctionner, qui a besoin de satisfaire un certain nombre de contraintes pour être, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé. C'est quelqu'un qui n'accepte pas que... finalement, de faire de la communication. On peut faire de la communication militante comme on peut faire de la communication publicitaire et se servir d'un livre ou se servir d'une revue comme une espèce de médium pour faire passer des messages. Mais à ce moment-là, on méprise quelque chose qui est la vérité du support. Et si on méprise cette chose-là, pourquoi est-ce qu'on ne mépriserait pas une autre? Enfin, il y a une forme de presque de laideur morale dans de ne pas se soucier de ce qu'on fait quand on écrit des livres.
Où suis-je ? Sur l'île d'un livre. Bref inventaire des rencontres. Il y a d'abord la compossibilité des progrès, découverte dans la librairie de Tulle, ainsi que la réfutation du progrès majuscule et celle corrélative du temps linéaire. Puis l'analyse des modes de relation entre la vie et le sens, de la coïncidence à la distance. Le constat d'une primitivité du progrès technique qui essaime sur la planète et prolonge la vie. Le rôle de l'individu. La figure de Prométhée abandonnée à son vautour. Puis l'île du Robinson de Défaut. La conquête et la transduction. À nouveau la question du sens, comme prise de distance. Il y a aussi tout ce qui n'est pas dans le livre. L'océan. L'océan immense. Mais où est le centre de l'île ? Dans la relation entre la vie et le sens. Et pourquoi faudrait-il un centre ? Par décision. Comme on plante un drapeau. Pour avoir un repère. Ou encore, pour tâcher d'exprimer autrement la nécessité d'élire un centre dans la réflexion sur une notion aussi relative. On pourrait dire qu'il convient de fixer un repère pour échapper à la croyance selon laquelle nous serions des nains sur des épaules de géants. Car il est temps que cela cesse. Cette conscience nouvelle existe, et sa seule existence me semble un progrès. Sa force est d'être pluriel, écrite en minuscule, d'être en somme tout le contraire d'une utopie. Élaborée dans le sillage de la catastrophe, et même carrément, si on évoque les dérégulations climatiques dans l'œil du cyclone, elle ne promet ni lendemain qui chante, ni grand soir, ni abondance. Mais elle marche. Elle y est du reste forcée. L'erreur serait de lui demander de pourvoir aussi à la question du sens. Elle est incapable de le donner. Et si elle devait s'y essayer, c'est qu'elle serait devenue une idéologie. Qu'elle s'en garde. Cette conscience nouvelle qui se développe et la relation au monde plus respectueuse qu'elle tente d'inventer relève en effet pour une grande part du progrès utile. Elle travaille dans le prolongement de la vie, ainsi que dans son aménagement, et touche à cette primitivité de l'humain, où se joue son rapport matériel à son environnement. Mais aucunement le sens de ce rapport. Celui-ci suppose distance, refus, question, élaboration personnelle, pour que la relation entre le sens et la vie demeure singulière, et qu'aucun progrès collectif ne puisse l'enrégimenter. Le sens et la distance toujours interrogés avec la vie. S'il y a un progrès relatif à cette question, il ne peut être que subtil. Il concerne nos perceptions. La distinction entre l'utile et le subtil joue donc aussi le rôle, dans cette élaboration théorique autour du progrès, d'un garde-fou destiné à empêcher que l'individu soit une fois de plus enrôlé au service de l'espèce ou de la société. Il est toujours seul face à la question du sens. Extrait de Pascal Chabot, Après le progrès.
Au pratique, comme toujours, les choses se font par des enchaînements de personnes. Hein. Les choses se font jamais depuis le vide, depuis le grand nulle part. C'est-à-dire même Rimbaud a eu besoin de son prof de terminale qui lui-même connaissait Théodore Banville pour exister. Même Rimbaud est quelqu'un qui a dû fonctionner par en sautant de personne en personne avec des aides, comme le mythe de la personne qui fait les choses parce que ça lui tombe du ciel, c'est impossible, et dans le cas de l'édition c'est exactement la même chose. Donc Il y a eu un enchaînement de circonstances, un enchaînement de personnes qui ont fait que cette collection est devenue possible. Un enchaînement de circonstances qui vient à nouveau de Roland Jacquard. En fait, je dois beaucoup de choses à deux personnes dans mon parcours éditorial. La première chose, c'est à Gilles Collard, donc qui dirige cette magnifique revue qui s'appelle Pylône, parce que c'est lui qui a publié mon premier texte sur les starlettes. C'est ce texte que j'ai envoyé au directeur de la collection La Trappe-Corps à la Musardine, qui du coup m'a commandé mon premier livre. Et puis ce fait que ce directeur, celui qui était directeur de cette collection à l'époque, qui s'appelait Serge Koster, maintenant c'est une femme qui s'appelle Sarah Fisch, qui est romancière, fait partie de cette espèce de bande informe qui tourne autour de Roland Jacquard et de sa collection Opus, Perspective Critique. Donc, Roland Jacquard, que je lisais beaucoup quand j'étais ado, je me suis un jour retrouvé à discuter avec lui, on a sympathisé aussi. Et un jour, je lui ai demandé... c'est lui qui m'a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai dit que je travaillais beaucoup sur la boulie ou l'indifférence en matière de politique. Il me disait « Ah, c'est un chouette sujet pour un bouquin », donc je fais mon deuxième bouquin dans sa collection. Mais j'ai l'impression que l'interpellation à s'intéresser à la politique, l'interprétation à accepter un mode de vie politique et à penser la politique, non seulement se faisait au niveau de l'État, mais aussi dans tout, chez tous ceux qui prétendent s'en séparer, s'en distinguer, ou inventer des nouvelles formes de vie dans lesquelles l'État n'a pas le rôle directeur ou régulateur qui est le sien aujourd'hui, etc., etc. D'une certaine manière, moi, je me sentais d'accord avec aucun des deux. Et donc, voilà, il y avait cette idée-là que je trouvais chez Solon, comme le moment originaire d'une violence généralisée qui est vraiment au cœur, d'une certaine manière, de l'idée politique européenne à l'égard de ceux qui, simplement, n'y trouvent rien. Voilà. Préférerait d'une certaine manière, j'ai pas envie de réutiliser le slogan de Bartleby utilisé à toutes les sauces depuis de Isabelle Stengers à Giorgio Agamben et dans tous les sens, mais il y a un peu de ça, quoi. Foutez-moi la paix, voilà, c'est ça, c'est Jean-Pierre Léo dans le départ de Jerzy Skolimowski, quand on se met à hurler la paix, il y a vraiment ça. Lâchez-moi les roustons, quoi, pour le dire platement, après on pourra fabriquer des choses, mais qu'il n'y ait pas ce préavis ou cette obligation préjudicielle de travailler la politique. Bon, ça fait ce petit livre de l'indifférence à la politique dans la collection de Jean Jacquard, livre qui m'a valu des emmerdes pas possible. Surtout de mes amis de gauche. Moi, je pense pas du tout, hein, gauche-droite, pour moi, ça n'a aucune signification, mais les gens, voilà, ne peuvent pas s'empêcher de se dire de gauche-droite. Avec le fameux syntagme deleuzien, effectivement, toute personne qui refuse la distinction gauche-droite est déjà, d'une certaine manière, de droite. C'est quelque chose que j'accepte pas, évidemment. Moi, je crois que les vies se font des coordonnées, se font selon des coordonnées qui sont inventées, quoi. Et ces coordonnées-là, en tant qu'elles sont données, ne peuvent pas me satisfaire de ce point de vue. Voilà, donc ça fait. Je te raconte vraiment, c'est vraiment la longue version là. Donc, il y a ce livre, et puis on continue à se voir avec Roland Jacquard, et il me dit un jour, tu sais, j'ai entendu un truc au PUF, pour l'instant, ils sont en train d'un peu rechercher des nouvelles têtes, parce que voilà, certains de leurs amis au Monde, etc., leur disent, bon, vous n'avez pas. Des nouvelles têtes à nous présenter, c'est toujours les mêmes qu'on a interviewées dans les médias, tout ça, ça nous ennuie, bon. Moi je me dis, ah là, ces gens-là tendent les verges pour se faire battre, il y a une espèce de chance à saisir pour s'introduire au PUF et faire quelque chose qui correspondrait à mes désirs à moi. Et donc j'aurais proposé un projet ad hoc avec des nouvelles têtes, un argumentaire basé sur des nouvelles têtes, etc. Tout en songeant néanmoins par devers moi, au fond la question des nouvelles têtes ou pas nouvelles têtes, j'en ai vraiment rien à kicker, quoi. Mais simplement ça permettait effectivement de composer, de mettre en place dans une maison d'édition qui est une maison d'édition qui est quand même une belle histoire, quelque chose comme un lieu de rassemblement pour des forces qui sont très éparpillées, éparpillées dans toutes sortes de maisons d'édition, de toutes sortes de tailles, des gens que j'aime bien, des gens dont je me sens proche, des gens dont je me sens peut-être plus éloigné, etc. Mais essayer de les rassembler en un lieu pour leur dire, voilà, il y a des choses qui se font, on existe. Hein, on n'est pas juste un item dans le catalogue des Prairies Ordinaires là-bas, un item chez Alia ici, un item chez Amsterdam là-bas, un item encore plus négligeable au Seuil ou chez Gallimard. Il y a un lieu et il y a un lieu pour rassembler les forces, pour les travailler et voilà, pour essayer de les accueillir. Quelqu'un a dit qu'on écrit que les livres qu'on a envie de lire, mais je crois aussi qu'en fait qu'on édite que les bouquins qu'on a envie de lire. Donc il y a une aspiration profonde, je crois, ou un goût profond à la beauté qui pousse à éditer les livres, les livres d'autrui en essayant que ce soit les. En les choisissant quoi, et en essayant que ce soit les meilleurs possibles.
Ce n'est pas contre le soupçon qu'il faut désirer le retour de l'expression, du récit, du verbe, mais avec lui, en cherchant non pas à s'en débarrasser, mais bien plutôt à voir comment, par l'interdit, à l'intérieur du bégaiement, à partir de fragments, de traces, quelque chose continue de naître. Et ce n'est pas contre le formalisme ou la langue appauvrie, désenchantée, qu'il faut à nouveau tendre vers le sacré, la texture. Mais avec eux, en traversant, en accompagnant la langue objet, sa bêtise, ses stéréotypes. Et enfin, ce n'est pas contre les strates de fiction et les réalités contemporaines qu'il faut promouvoir le post-colonial, mais encore avec elles. Parce que le devenir créole rejoint le vertige du recouvrement technologique. J'ai dit, nous sommes rendus à l'heure de la moisson. Et ce que nous trouvons dans les champs, ce sont bien sûr des graines, des feuilles, des tornades. Celle du Verbe incarné, de la nomination biblique. Celle de Césaire, du retour au pays natal. Mais aussi, pour peu que l'on regarde de près, sous la surface, nous trouvons des mines, des trous d'obus, les restes d'une voie de chemin de fer. Les traces de joie et de larmes versées, des maisons construites pour personne. Et encore, dans ce champ, nous voyons une décharge, une serre, une éolienne. Et aussi, lorsque nous croyons être rendus dans les forêts alentours, nous découvrons des simulacres d'arbres, des sorciers et leurs doubles, des marionnettes. Et encore, la nuit, nous voyons des lumières lointaines, artificielle, et aussi de faux cieux qui recouvrent d'autres champs. Si le voyage fut un déplacement, il ne l'est plus. Dans un temps où l'abscisse est l'ordonnée de toute chose bouge, seul celui qui a de l'inertie, une lenteur, une paralysie, donne l'impulsion au mouvement. Aussi, plutôt que de marcher, nous creusons dans la toile de nos représentations. Plutôt que d'avancer, nous cherchons à excaver, en soupçonnant toujours la nature d'être une recréation. Extrait de Visiter le Furkistan ou les illusions de la littérature monde de Camille de Toledo.
Ça, c'est une phrase, c'est un passage. C'est un passage évidemment qui non seulement périme toute l'idéologie de la littérature monde, mais périme aussi toute la critique situationniste, toute la critique de la cécité du spectacle. Puisque ce dont il s'agit avec Camille de Toledo, c'est vraiment de pratiquer une archéologie, pas au sens foucaldien, une archéologie d'archéologue avec la truelle, le marteau, la lipoussette, etc. Une archéologie des strates de fiction qui composent le monde, étant donné qu'une fois qu'on a qu'il y a toujours une strate de fiction qui en recouvre une autre, etc. Mais sur un mode qui n'est pas tellement nietzschéen là pour le coup. C'est pas masque sur masque sur masque et puis derrière le grand vide. Ce sont des strates de fiction qui ont toutes leur légitimité, leur mode d'être ontologique plein, quoi. Et j'aime bien l'idée que du coup l'être puisse être feuilleté. Ça, c'est une idée que je trouve très, belle, que le monde puisse être feuilleté. En l'occurrence, l'être puisse être feuilleté. Dans le cas de Camille Toledo, c'est l'être du monde. Je trouve que Chloé Delhomme, par exemple, est très proche de Camille Toledo de ce point de vue-là. Mais l'estrade de fiction, chez elle, c'est l'estrade de fiction du jeu. Donc le jeu aussi est feuilleté au même titre que le monde. Et le fait que l'on puisse considérer qu'une entreprise littéraire ou une entreprise de pensée soit une entreprise d'archéologie qui va prendre des carottes dans les strates de fiction qui composent l'univers, je trouve que c'est un programme... Moi, je trouve que c'est un programme qui est ultra excitant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui est très, très, très en avance. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment de... Tu peux me corriger, hein, mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir lu des choses pareilles chez d'autres. On a vu beaucoup de choses sur la réalité, la fiction, etc., Baudrillard, machin, mais pas sur ce mode-là. Pas sur le mode de la dignité ontologique pleine, du carottage, de l'exploration archéologique par couche, et puis on investigue les restes, on voit ce qu'on peut en faire, et puis à partir de ça, bâtir des nouvelles grandes histoires sur les débris qu'on va creuser au niveau, que l'on découvre au niveau 2, au niveau 4. Je trouve ça assez, assez génial comme bricolage, ça devient du grand bricolage. Voilà. Camille Toledo, son œuvre est magnifique. Hein. Déjà, Archimonde Algipin, c'était un très beau livre déjà aussi. C'était un livre qui était animé par ça et qui est un livre qui était très très mal compris. Et je crois que Camille Toledo en souffre beaucoup parce qu'on en a vu un manifeste branché pour une nouvelle génération vaguement triste. Alors c'était pas du tout ça. Tout ça était déjà en germe. Et je pense qu'avec Visiter le Fur qui sent, pour ça, je suis très content de l'avoir ramené à l'essai. Il fait des très très bons romans évidemment, mais de l'avoir ramené à l'essai, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il est. Il est suprême dans l'essai. Et du coup, le Être et le boulot qu'il a publié après au Seuil dans la librairie du XXIe siècle, essai sur la tristesse européenne, en finir avec le XXe siècle vraiment, ça participe de ces entreprises de modelage du monde par strates. Le XXe siècle est une strate. On peut commencer à explorer le XXe siècle comme une strate et non pas continuer à être embourbé dedans jusqu'à la fin des temps, quoi, comme certains voudraient bien qu'on le fasse. Voilà, je pense qu'un jour, c'est une question de temps, Camille Toledo. C'est une question de temps avant que les gens comprennent, quelque part que les gens comprennent.
Le triptyque de la poussière, du dehors et de l'inconnu est, en fait, une idéologie substitutive, une incroyable réduction des possibilités de la littérature. Croyant autoriser et libérer la fiction, et avec elle le récit, l'histoire, l'incarnation, elle les assigne à résidence dans cette clairière du vrai, du réel que les idéologies dans leurs œuvres de quadrillage nous auraient trop longtemps empêchés de fouler. Mais à quoi ressemble cette clairière? La poussière d'abord, c'est croire que le monde peut être palpé. La poussière, c'est la foi dans le chemin. La poussière, c'est ce qui nous empêche de croire que Stevenson, toute sa vie, voyagea pour revenir en enfant et en mère dans la chambre du malade. La poussière, c'est ce qui nous interdit de suivre, après le livre des fuites, la multiplicité des strates de fiction, afin d'absorber les mondes, les théories, les idées, les rêves qui sont à l'intérieur du monde et de représenter ce temps de l'exégèse où jamais le texte originel et l'image première ne se laissent découvrir. Où les empilements de sens, de récits, de sensations dissimulent la source, où, comme dans les arborescences virtuelles, les livres ne sont que les objets pleins d'un réseau de fiction ouvrant sur le vide.
Une expression de Camille Toledo dans Archimonde Algipin que je trouve fabuleuse, c'est l'expression d'un romantisme aux yeux ouverts. Tout son travail est basé sur cette idée d'un romantisme aux yeux ouverts. Alors on pourrait croire que du coup il rejoue la scène du soupçon, moderniste, critique, etc. Moi j'en suis pas sûr, même s'il utilise le mot soupçon, qu'il défend le soupçon dans Visiter le Fur qui sent, c'est aussi une défense du soupçon. Mais c'est d'un autre soupçon qu'il s'agit, c'est plus le soupçon critique où on va aller voir le réel derrière les choses. Non, c'est le soupçon, c'est un soupçon différent, qui opère sur un mode différent, celui du théâtre de marionnettes, de la réalité derrière l'image. c'est un soupçon comme moteur pour aller y voir ailleurs, aller creuser ailleurs. C'était premier livre, hein, c'était extraordinaire parce que quand j'ai signé mon contrat avec les PUF, ils m'ont dit, écoutez, on veut les premiers manuscrits, j'ai signé en février, on veut les premiers manuscrits en avril pour pouvoir les sortir en octobre. En avril, février, avril, 2 mois. Téléphone, qui veut. Et les deux qui ont répondu tout de suite, Pascal Chabot, Camille Toledo, ont écrit ces livres en 2 mois. Je veux dire, c'est incroyable, parce que ce sont des livres qui sont tous les deux d'ailleurs des livres d'une tenue intellectuelle et littéraire vraiment superbe, en 2 mois. Après le progrès, moi j'étais voilà, c'est aussi un livre dont je me permets d'être très content. Pascal Chabot, moi j'ai découvert via Gilles Collard, justement, dans Pylône, les textes qu'il publiait dans les premiers numéros de Pylône, et j'avais été frappé aussi par son élégance, une élégance tout à fait différente de l'élégance de Camille Toledo, par exemple. C'est une élégance un peu... J'ai toujours envie de dire vieille France, mais vieille France c'est pas le mot, parce que vieille France je voudrais dire les 50, mais c'est pas ça. Il y a un côté grande tenue, il y a un côté, il pourrait y avoir un côté je sais pas trop, Jean Kilevitch mais à notre époque, enfin voilà. Et j'étais charmé par oui, c'est ça, cette tenue, cette rigueur, ce plaisir aussi, cette gourmandise que Pascal Chabot a écrit. Et donc voilà, il m'a proposé ce sujet qui m'allait très très bien. Et ça a donné ce livre qui est aussi un très très beau livre qui commence par un très beau travelling avant. On part, on est un peu dans le grand nulle part, l'Europe, la France, Brive-la-Gaillarde, où on s'enfile dans les rues de Brive-la-Gaillarde, on arrive chez un libraire, on rentre et on arrive à côté du libraire. C'est un travelling... je ne vais pas dire digne de celui qui ouvre l'homme sans qualité, mais c'est vraiment, il y a un magnifique mouvement qui fait rentrer dans le livre. Pascal Chabot, c'est un conteur remarquable. Hein, en ce sens, c'est vraiment un essayiste au sens noble. C'est quelqu'un qui parvient à faire penser, assez fort en narrant sa pensée. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Les distinctions plus progrès subtil, progrès utile. Il y a toujours chez Pascal Chabot quelque chose de très particulier, c'est la nécessité de l'ancrage vital. Voilà, il faut toujours que toute chose doit en chacun de ses points, toute pensée en chacun de ses points doit être ancrée dans une expérience, dans une vie, etc. Pourtant, il n'est pas... Ça lui vient peut-être de d'un passé phénoménologique. Il a beaucoup travaillé Husserl, je crois, à un moment donné. En même temps, il n'est pas du tout phénoménologue. Voilà, c'est cet ancrage-là. Peut-être qu'il lui vient aussi de son goût pour la pensée ésotérique. C'est un grand lecteur d'Aldous Huxley. Il a lu Guénon, il a lu Evola. Il connaît bien la pensée ésotérique. Et c'est lui qui m'avait dit un jour, lors d'une discussion autour de ces figures-là, que la grande différence évidemment entre eux et la philosophie, c'était ça. C'était l'ancrage, la nécessité de l'ancrage vital en chacun de ces points. C'est-à-dire, on part de la vie des gens. Si ça ne change rien dans la vie des gens, alors ce n'est pas la peine. Forcément, la vie des gens est changée par le dispositif ésotérique. La connaissance change la vie. Et je crois que Pascal Chabot a, en matière de philosophie, une ambition qui est une ambition similaire. La connaissance doit changer la vie ou profiter à la vie immédiatement. Et pas de manière indirecte, sinon ça ne vaut pas la peine. Ça fait de lui aussi quelque part un moraliste au sens noble. Hein.
Le progrès est à réinventer. Les idéologies qui s'en alimentent ont montré leurs limites, causant parfois des dégâts irréversibles. Tourner la page, c'est-à-dire penser après le progrès, majuscule, c'est s'interroger sur la façon dont notre civilisation comprend aujourd'hui sa marche en avant. Cherche-t-elle seulement à accroître la sphère de l'utile, comme elle semble s'y atteler avec intérêt et parfois avidité? Ou laisse-t-elle une place au progrès subtil, les seuls qui est un sens.
Du terme. Il y a aussi quelque chose de très très beau dans ce livre que j'aime beaucoup et qui est partagé par Camille Toledo, c'est la présence de l'éloge des voyages insensés de Golovanov, grand roman que les éditions Verdi ont finalement publié il y a 3 ans maintenant. Une manière aussi, je ne sais pas si à chaque fois, de penser avec Golovanov, de penser à partir de la littérature, de penser à partir des romans. Qui est très belle. On parle de Bergson, on parle de Simondon dans le livre, mais la pensée se fait vraiment à partir de. Se fait à partir d'ailleurs. C'est pas du commentaire de texte, c'est pas de la discussion d'auteur. C'est très important. Je prohibe ça normalement. Il n'y a qu'une seule exception, c'est Véronique Bergen, mais je prohibe ça dans ma collection sur les discussions d'auteur et les commentaires. Il faut penser par soi-même, c'est pas la peine de s'atteler à des béquilles. Par contre, on peut. Faire fonctionner des objets dans sa pensée et faire fonctionner des romans par exemple ou faire fonctionner des films, etc. Faire fonctionner des matchs de football comme chez Cédric Lagandré, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc j'aime beaucoup aussi ce que fait passer à Chabot avec Golovanov dans ce bouquin. Quoi.
Le ralenti est toujours propre. Puisqu'en même temps que le brouillon, il montre, par le type de regard qu'il requiert, sa purification. Le caractère brouillon n'est pas l'illisibilité du réel. Il n'est pas déterminé par une impuissance de l'intelligence à l'ordonner dans une représentation claire. Mais il s'explique entièrement par la contingence. Tout est toujours sous la menace de n'avoir lieu pour rien, sans reste et sans mémoire. Le pire des ordres semble un ordre s'il est nécessaire. Le mot de ralenti qualifie mal l'image à laquelle il s'applique. Il ne désigne que le procédé technique par lequel on l'obtient, et nullement l'image elle-même. Le ralenti montre autre chose que la même action à une allure plus lente. Il constitue un type d'image autonome, suscitant un regard et un plaisir différents de l'image directe, à vitesse normale, de l'action présente. Ce type d'image autonome, en portant l'attention sur la seule occurrence d'un événement dont on est sûr qu'il aboutit à quelque chose qui en justifie la vision, modifie forcément la réalité de ce qu'il montre. Ces changements sont divers. Elles donnent de l'unité à une multiplicité. Elles donnent de la nécessité à un déroulement contingent. Elle donne de la valeur à ce qui, dans le présent, se trouve toujours sous la menace d'un inachèvement qui le rendra vain et nul. Or cette fonction de récapitulation du temps, avec le renversement qu'il fait subir au réel, le faisant pour ainsi dire surgir de sa propre fin, n'est pas seulement propre à une sorte d'image parmi d'autres au sein de l'appareil spectaculaire, mais il en résume exactement la fonction. Ou encore il offre, de tout l'appareil sémiotique du spectacle, une vision nue. On se souvient de ce qu'en disait Debord, que toute l'histoire du monde semblait n'avoir eu lieu que pour passer un jour à la télévision. L'image spectaculaire se donne comme la justification téléologique de ce qu'elle montre, et vaut donc, par rapport à la réalité vivante, comme une sorte de gigantesque ralenti récapitulatif. Évidemment, l'histoire n'est pas finie. On ne voit pas comment. À moins d'abolir l'incertitude du temps, on pourrait couper l'homme de l'historicité qui est la sienne. La question est tout autre. Il s'agit de comprendre dans quelle mesure l'appareil spectaculaire fait régner un certain régime de visibilité qui contient en lui-même un caractère de récapitulation. Ou encore, comment il inscrit à même le réel une temporalité récapitulative qui tire à elle tout le passé, se comportant ainsi, probablement sans le savoir, comme si l'histoire était finie. Il assume en cela une fonction de salut. Le ralenti sauve l'action, dans son désordre, sa contingence, sa nullité possible, en la faisant voir, pour ainsi dire, du point de vue du but. L'image spectaculaire, de même, sauve l'histoire en la regardant depuis sa fin, du point de vue de l'achèvement. C'est au travers de cette lunette l'idée du parfait, en quelque sorte, que l'homme contemporain observe le monde. Télé, réalité. La banalité de la vie est sauvée par le caractère intrinsèquement rétrospectif, rassurant, purifiant de l'image télévisuelle. La négation de la vie devenue visible, disait encore Debord. L'énoncé pourrait aussi valoir comme une définition du ralenti. Comme si tout était achevé, comme si l'on était désormais quitte de toute l'histoire, et que le temps présent, dans une synchronie sublime et compacte qui donnerait le tout avant les parties, réconciliait pour de bon l'être et l'avoir été. Pas exactement l'éternité, plutôt une temporalité singulière et messianique. On reste dans le temps, mais ce temps, paradoxalement, est achevé. Achevé comme temps, autrement, pas de soif d'un hors-temps ou d'un achèvement, mais pas encore rendu à l'éternité. Si bien qu'on peut dire que le régime de visibilité qui constitue le spectacle est celui d'une actualité qu'on voudrait pure. C'est-à-dire débarrassée des mille virtualités qui inquiètent le réel. Extrait de Cédric Lagandré. L'actualité pure.
Bon, on a encore du boulot. Hein.
Le danger d'échapper au temps linéaire crée un risque qui peut être très joyeux, hein, qui peut être une espèce de contemporanéité permanente, une spatialisation qui échapperait à l'histoire, qui ferait peut-être enfin être fidèle à la Terre, être là. Le danger de ce geste est peut-être de mener à l'actualité pure et au temps paralysé.
Ça, c'est un des premiers. Bon, comme tout le monde, il m'arrive de recevoir des manuscrits, des sollicitations, etc. Pour toutes sortes de raisons, j'ai pas pu accepter les manuscrits ou les sollicitations que l'on me faisait. Cédric Lagandré, c'est le seul manuscrit qui m'est arrivé par un ami commun. Dont je ne connaissais pas l'auteur, je ne savais pas ce qu'il avait fait, ni quoi que ce soit. J'ai reçu ce petit texte et j'ai failli. Je veux le publier tout de suite. Et j'ai dit à Cédric Lagandré, quelque chose que je ne retirerai pas aujourd'hui, c'est quand j'ai conçu la collection, je l'ai vraiment conçue d'une certaine manière pour publier des livres comme ça. Il y avait ce que je... Bon, c'est quelqu'un qui écrit remarquablement bien. C'est une écriture, lui, plus agambénienne, disons. Avec une nervosité supplémentaire qu'il n'y a pas chez Agamben. Agamben est plus classique en ce sens. Il y a l'idée du concret, qui se matérialise même dans le dispositif du livre, puisque le livre commence par une... Voilà, vraiment une analyse... c'est un ralenti de match de football, c'est un goal, quoi. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et voilà, donc il part de ça, il en fait quelque chose de très fort, de très beau, et puis très vite, un geste théorique est posé qui englobe beaucoup de choses. Cédric Lagandré parle de beaucoup de choses dans le livre, brasse beaucoup de choses en même temps, mais une espèce de rapport au temps présent et à disons, la vie qui n'est plus vécue, qui est très fort, qui pourrait avoir, puisqu'on en a déjà parlé, qui pourrait avoir un côté situ de Bordien. Je lui reprochais en lui disant j'adore ce livre et donc je veux le publier tout de suite. Et il est sorti en même temps donc un autre livre que Cédric Lagandré a publié chez Climat qui s'appelle La Société Intégrale, qui est aussi un excellent bouquin. Je, je veux le sortir, étant donné qu'il y a deux choses qui rentrent en jeu là-dedans. Premièrement, mes préférences théoriques à moi n'ont aucune importance. Donc si je ne suis pas de Bordien, et si, bon, ça ne me dérange pas de publier des situs s'ils font des bons livres. Moi, je publie Réticule à la seconde, sans problème. Eux voudraient pas du tout voir ma gueule, mais enfin, moi, je les publierais volontiers. Et donc voilà, il y a l'idée que mes préoccupations théoriques à moi, mes opinions à moi, rien à foutre. Moi, je suis là pour essayer de recueillir les idées où elles sont, dans leur intensité propre, chez des gens qui ont envie de faire des livres. Et où que ça se trouve, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le publier. Donc voilà, ça c'était un point.
L'art est dangereux. On ne se confonde pas impunément au réceptacle de magie noire le plus puissant de son époque comme ça, en passant, comme si de rien n'était. Mais si l'on ne se confronte pas à la violence que représente son exercice, si l'on ne risque pas le tout pour le tout, quitte à se retrouver projeté dans le néant, alors autant ne rien faire du tout. Si l'on ne risque pas à tout instant son cœur ou sa raison, alors il ne sert à rien de s'engager dans les sentiers de ce jardin. Ce jardin, c'est la télévision comme monde de l'âme du capitalisme. Jusqu'à l'advenue de la télévision, le capitalisme ne pouvait s'en prendre qu'au corps et aux esprits. À partir de l'insomption du petit écran, c'est à l'imaginaire et à sa fonction transfiguratrice, résurrectionnelle, que la religion la plus extrême de toutes s'est attaquée pour mettre l'homme sous sa permanente tutelle. Miroir de l'exil occidental, la télévision a fait éprouver aux masses les barreaux de la prison psychique que jadis les gnostiques seuls surent percevoir dans l'anticosmos du dieu mauvais. Ils furent quelques poignées. Nous sommes la terre entière. Les jours de ce monde sont dès lors comptés, et c'est Twin Peaks qui, en établissant l'ésotérique, aura commencé à en fissurer l'édifice par la présentation de notre grand miroir brisé. Car on ne détruit pas un monde de l'âme du dehors, jamais. On ne les détruit pas par une critique, même radicale, de ce qui le détermine. Ceux qui, une fois, s'y sont trouvés pris et y ont fécondé leurs rêves, continuent à y séjourner, alors que tous ces critères d'évaluation extérieure ont été, depuis longtemps, désamorcés. C'est par une opération gnostique et une voix de la main gauche, comme celle de Twin Peaks, que l'on peut défaire, un à un, les liens qui se sont tissés entre l'humanité et l'imaginaire collectif dans lequel elle a été plongée. Car il ne s'agit pas de voir. Il ne s'agit jamais seulement de voir. Il ne s'agit pas seulement de connaître non plus. Il s'agit de modifier la réalité en rehaussant la qualité de notre regard. À la fin du combat que représente une telle création, l'artiste est enfermé dans le monde qui l'a rendu possible, et il ne peut pas sortir. Mais son œuvre est là, devant nos yeux, entre nos mains, et c'est à nous d'en libérer le potentiel de transfiguration épiphanique toujours présent. Nous sommes déjà des princes, si nous le voulons. Il s'agit maintenant d'exprimer le Xvarna de notre qualification. Maintenant, quelque chose doit craquer.
Quelque chose doit craquer. Quelque chose, quelque chose doit craquer.
Extrait de La main gauche de David Lynch, Pacôme Thielman.
Et puis un autre point, c'est que je crois, j'ai l'intuition, et pour en avoir discuté avec lui, cette intuition, je peux dire qu'elle est fondée, qu'il y a chez lui la volonté de développer de plus en plus de pensées affirmatives. Je crois que ce qui le distingue dans l'interprétation que moi j'ai du situ contemporain, c'est son manque de dimension affirmative. L'affirmation est de principe. On affirme la nécessité de l'affirmation. Mais ensuite, on ne construit pas une affirmation sur un objet. Lorsque j'ai essayé de fermer Starlet, moi j'ai construit une affirmation très particulière, c'est les êtres de fiction qu'on rencontre dans le cinéma pornographique sont des êtres qui nous apportent quelque chose. Et j'essaie de montrer en quoi. Que j'ai réussi ou que j'ai raté, ça c'est un autre problème. Mais j'essaie de montrer en quoi ils nous apportent quelque chose plutôt que de nous soustraire quelque chose. Et moi ce que je reproche effectivement au situationnisme en général, c'est qu'il ne nous, il proclame de manière tout à fait programmatique la vie plus grande, plus large, plus belle, etc. Le champion hors catégorie étant Raoul Van Eyghem, évidemment. Mais je ne vois pas très bien quelle possibilité, tu vois, à part rééditer des textes anciens de Charles Fourier sur les harmonies polygames en amour, de plaider pour le vin et la vie communautaire. Le monde est surchargé d'objets qui apportent des choses à toute une série de personnes pour toute une série de raisons. Un acte affirmatif, c'est un acte pareil d'une certaine manière à celui que tentent aussi de poser des gens comme Isabelle Stengers ou Bruno Latour, de passer de la critique à, je ne vais pas dire l'éloge, mais presque. Et je crois que c'est quelque chose que Cédric Lagandré a en lui. Il avait besoin de sortir à un moment donné pour commencer, là maintenant, il avait besoin de dire, voilà ce que je considère comme irrespirable dans la société, et il le dit brillamment, et il le dit de manière remarquable et avec un très haut degré d'originalité métaphysique. C'est pas une dénonciation du monde, comment dirais-je, qui ressasse des clichés entités institutionnelles, ou etc., etc., mais qui s'intéresse vraiment à la métaphysique profonde qui travaille ce monde, qui est en l'occurrence une métaphysique du temps. Et ça, je pense que c'est très neuf. Moi, personnellement, je l'avais pas lu. Il y a des dénonciations du présentisme, des dénonciations de sociologues, etc. Mais véritablement instaurer l'actualité comme catégorie métaphysique qui définit ou qui surdétermine jusqu'au cœur de l'être dans notre époque, moi, je trouvais ça très neuf et je trouvais ça très fort aussi, quoi. Quoi. Parvenir à dire tout ce qu'il dit, parvenir à la fois déplacer la métaphysique du temps dans son ancrage contemporain, à en tirer des leçons, effectivement, bon, sur le spectaculaire qui sont peut-être moins puissantes, mais sur la souveraineté à notre époque, sur le statut du symbolique, auquel il donne un nom très particulier. Je lui ai posé une question là-dessus, j'avais peur que le symbolique il l'entende dans un sens un peu legendrien, comme une espèce de super instance, mais lui il le voyait à même les appareils, il le voyait fonctionner, le symbolique au sens vraiment du premier, c'est-à-dire cette chose qu'on n'arrête pas de se passer, cette espèce de relais qui font que les agencements peuvent avoir une cohérence à un moment donné, quoi. Voilà, tout ça tout ça est très très fort, et je pense que ce sont toutes des choses qui vont, c'est un livre bulbe, l'actualité pure, ou un livre racine qui va donner toute une série de choses. Pour moi, la société intégrale, peut-être que je plaide pour ma chapelle éditoriale, mais la société intégrale est un surgeon. C'est une espèce d'annexe, le détail d'un des aspects de l'actualité pure, mais l'actualité pure est vraiment la matrice philosophique, la matrice théorique, la matrice métaphysique de son travail. Et donc je pense qu'on va voir toute une série de surgeons. Et moi, ce que j'attends avec le plus d'impatience sont ceux qui écrivent sur l'art, puisqu'il a une longue, il a beaucoup, voilà, il a travaillé pour Mouvement très longtemps, il était dans les premiers dans Mouvement, et il a écrit sur le cinéma, il a écrit sur Kim Ki-duk, et donc je l'attends sur l'art, je l'attends, et je pense qu'on va avoir toutes sortes de très bonnes surprises aussi avec lui. C'est quelqu'un qui a attendu, qui a gardé des textes, il en a beaucoup, et il commence à sortir, comme une espèce d'explosion de spores qui vont se mettre à contaminer l'atmosphère. Moi, je suis vraiment curieux de voir ce qui réserve, parce que en lisant un petit peu, on se rend compte que plein de choses sont possibles. C'est un livre qui est très excitant pour ça, c'est un livre qui est tellement vibratif, tellement dense, qu'on sent qu'il y a plein d'événements théoriques possibles partout.
Posture et figure libre. La surface était lisse parce que je suis astigmate. Combo envisagé. Double boucle, piqué, arabesque, triple axel. Elle fourche l'aventure. Rein brisé, petit pas. La lame, la glace. Une écorchure. Zébrure, chute puis dérive. En tutu, je patine. L'autofiction se craquelle dès qu'on met le pied dessus. Alors, se contenter d'examiner l'igloo. Quels blocs, quels agencements, nature des matériaux, puisque. À mon tour, par quel bout, corde raide, autofiction, ce mot, comment l'ai-je investi? Et comment je l'entends? Lorgnette. Extrait de La règle du jeu. Chloé Delaune.
Moi, je suis quelqu'un qui suis très lent. Il y a des gens qui sont très rapides et il y a des gens qui sont très lents. Camille Toledo, c'est quelqu'un qui a 24 ans, sort un livre qui est absolument fait. Et moi, je suis très lent, donc le livre que je suis en train d'écrire pour l'instant ou quelques suivants seront bons et j'aurai trouvé mon rythme de croisière avec les suivants. Je pourrai les écrire dans le confort. Mais comme voilà. Je suis très lent, donc les livres tels qu'ils se sont faits, je parle volontiers, mais. Leur imperfection fait que je parviens pas à complètement les. Enfin voilà, donc, les pornostars, par exemple, les starlets, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre qui correspondait à une passion qui est la mienne pour le cinéma porno. En tout cas, que j'ai eu pendant longtemps, c'est vrai que non, c'est moins fort. Donc je serais content de pouvoir le faire, de pouvoir faire un livre qui était un livre. Qui n'était pas un livre de dénonciation, ni un livre de fan. Encore que des livres de fan, il y en a très 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 peu, mais. C'était pas un livre d'histoire, il y en a quelques-uns. C'était pas un livre de morale, hein. C'était vraiment un livre qui était consacré à la question de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne dans ces films? Ce sont évidemment les actrices. Comment fonctionnent-elles? Comme des êtres de fiction. C'est quoi un être de fiction? Quel est le statut d'un être de fiction? Dans quel type? Quel type de relation cela implique entre quelqu'un qui est à l'extérieur du monde de la fiction et quelqu'un qui est dans... Est-ce qu'il d'abord il y a un extérieur? Ou alors est-ce que c'est de l'ordre de continuum, etc. Donc il y a toute une question comme ça, qui est une question... pour ainsi dire, pour utiliser un mot très très gros, mais cosmologique, qui était en jeu. Comment est-ce qu'on cohabite avec des êtres de fiction? Quel type de cosmos on parvient à inventer avec des êtres de fiction? Quelle écologie Vous savez, les starlets, il y avait cette volonté-là, ces dires théoriques-là, qui était basée sur un truc très personnel, hein, auquel je redis rien. Par contre, je ne suis pas sûr que le livre soit parfait du point de vue stylistique. Il y a beaucoup trop d'adverbes, beaucoup trop d'adjectifs, des virgules pas bien placées, enfin c'est abominable. Et donc... un jour, je dis ça pour tous mes livres, hein, c'est une catastrophe. Un jour, je le réécrirai entièrement. j'ai toujours des bonnes raisons. C'est horrible parce que j'ai toujours de bonnes raisons de ne pas faire mes livres. C'est ça, donc, voilà, mon livre sur Deleuze, par exemple, c'est mon brouillon. Il fallait que je réécris, mais j'avais pas le temps, le contrat, etc. Il fallait que je rende mon. Donc, j'ai rendu quelque chose, donc j'ai rendu mon brouillon. Et donc, ils ont publié mon brouillon. En plus, ils m'ont publié n'importe comment, parce que j'avais fait des schémas, ça au moins, je les ai fait au propre. Il y avait des schémas qui permettaient de rendre le livre compréhensible et pour toutes sortes de raisons éditoriales, ils ont voulu sortir le livre très très vite parce que l'éditeur a des problèmes de trésorerie. Et donc il fallait que le livre soit sorti pour pouvoir être acté en trésorerie. Donc il fallait les imprimer et les sortir très très vite. Et donc du coup, ils n'ont pas fait passer à l'infographie les schémas que j'avais fait qui étaient pourtant capitaux pour comprendre la pensée du droit de Deleuze. C'est une pensée qui est tellement géométrique que sans schéma, c'était pas possible. Et puis le livre du milieu, l'indifférence thérapeutique, c'est un livre là dont je suis très content stylistiquement, pour le coup, parce que celui-là est très propre. Mais là, dans ce livre, c'est un livre où j'ai réalisé un fantasme d'adolescent. J'ai un fond, effectivement, j'étais ado. Quand j'étais ado, je lisais Cioran, je lisais Roland Jacquard, je lisais Auguste Rabb, je lisais voilà, les journaux intimes de Amiel, etc. C'était mon machin, quoi. Et quand Roland Jacquard m'a proposé la possibilité de publier dans sa collection, c'était réaliser cet exercice de style, du fragment, de désabusé, celui qui observe le monde depuis la terrasse d'un café en ricanant doucement. Et je l'ai fait, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a tellement amusé que j'ai mis 4 jours à l'écrire. Et pourtant, tous les bouquins que j'ai écrits, c'est le plus propre. Donc, dans l'ayant publié, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un désir, c'était un fantasme, mais c'était pas mon réel, en tout cas, pas, c'était plus mon réel, ou alors c'était plus mon réel. Donc je regarde ça comme une espèce de curiosité, donc un livre que j'avais envie de faire pour réaliser que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et voilà. Donc du coup, j'ai un problème d'être dans l'actualité, dans l'actualisation de mes livres, et c'est pour ça que celui que je suis en train d'écrire pour l'instant me demande tant d'efforts, parce que justement, j'en ai assez de ça, de cette espèce de mouvement de regret perpétuel, d'avancer, recul, etc. Cette fois-ci, le livre corresponde peu ou prou à l'idée que je m'en étais faite ou au type de grandeur auquel j'aspire, etc. Moi j'ai cherché des gens qui puissent me faire des bons livres sur la sexualité. Je dois avouer que j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas bien cherché, hein. J'ai sûrement même pas bien cherché. Il doit y avoir des gens qui. Mais en tout cas des livres qui correspondent aussi à ma collection. Et moi le livre que je suis en train d'écrire, c'est un livre là-dessus, c'est un livre qui s'appelle Contre l'érotisme. Et qui est en fait un art de jouir, vraiment. Pour pouvoir jouir aujourd'hui, on a besoin de se débarrasser de l'érotisme, définitivement. Donc je crois que le sexe, effectivement, c'est un truc qui fait beaucoup causer. Foucault l'a dit, montré, démontré, comme il le fallait. La sexualité, c'est quelque chose qui fait beaucoup causer, mais on a l'impression que les discours sont tellement saturés des affects de ceux qui causent que ça les fait dérailler tout de suite. Et de fait, si on reparcourt l'histoire de la philosophie, combien de livres ont une véritable thèse, forme une véritable thèse sur l'érotisme. Et Platon, dans les pièces majeures. Il y a Arthur Schopenhauer, dans Les Parergas. Et puis après, oui, il y a Foucault, Deleuze. Julius Evola, éventuellement. Métaphysique du sexe. Et puis, il y a Jean-Claude Milner, dans Le Triple du plaisir. Livre extraordinaire, hein, et que personne n'a lu. Kassem l'a lu, et... je pense qu'il en fait n'importe quoi, mais il l'a lu. Ça, c'est un livre d'une puissance inouïe pour Jean-Claude Milner. Mais personne n'a pris en considération ce qu'il a écrit. D'ailleurs, tout ce que fait Jean-Claude Milner d'une puissance absolument inouïe. C'est un type, c'est un des grands sous-estimés, je pense, de notre époque. Parce qu'il n'est pas philosophe, peut-être. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une axiomatique du sexe. Pour pouvoir parler. À nouveau, sans immédiatement se viander la gueule. C'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir, en matière de sexe, déduire jusqu'au bout les conséquences de ce dont on part. Et je crois que c'est ce que les gens ne font pas quand ils se mettent à parler de sexe. Quand on parle de libération sexuelle, ça entraîne un certain nombre de conséquences qu'il faut pouvoir formuler jusqu'au bout et de manière cohérente. Et lorsqu'on les lit, notamment... chez certains mouvements, dans certains mouvements queer, etc., ils ne tirent pas les conséquences justes de ce qu'ils disent. Moi, je suis prêt à accepter toutes les positions, mais j'aimerais bien, je demande qu'on tire les cohérences jusqu'au bout, qu'on tire les conséquences jusqu'au bout, qu'on les tienne jusqu'au bout. Et donc, ce petit livre, ce sera un petit livre, c'est un petit livre que j'ai écrit dans mon brouillon. Il a, pour le coup, sera pas publié parce qu'il ne fait que 30 pages. C'est un brouillon entièrement axiomatique, donc entièrement déductif. Comme mon livre sur Deleuze était entièrement géométrique, ça fonctionnait entièrement sur base de plans, avec des lignes, des dessins, etc. Et tout le livre est résumé en un schéma. Ici, tout le livre suit une espèce de. suit une déduction. Voilà, qui part de deux choses, qui part. De l'hypothèse que l'on peut accepter la distinction faite par Freud dans le premier des trois essais entre sexuel et Geschlecht. Hein ? Donc, il faut accepter cette distinction, peut-être qu'elle n'est pas fondée, mais si on l'accepte. Et deux, si on accepte que l'époque aujourd'hui privilégie le Geschlecht sexuel, alors, s'en suivent une série de choses pour la relation que l'époque entretient à la sexualité, pour la survivance ou pas, ou la perpétuation ou pas de quelque chose comme une libération sexuelle, pour l'avenir de l'expérimentation en matière de désir. Vous vous rappelez Foucault, hein, son grand regret c'était de ne pas avoir inventé un nouveau plaisir. S'il avait inventé un nouveau plaisir, il savait lui que cette question était vraiment une question d'axiomatique. Un plaisir dans une série, ou un plaisir dans un ensemble, ou un plaisir. Ça implique de définir l'ensemble des plaisirs possibles. L'érotisme est, si on en. On va pas refaire toute la démonstration, mais on peut définir en gros l'érotisme comme une gymnastique du génital, donc une gymnastique du sexuel. Vraiment. Et l'érotisme comme mise en. Donc, comme mise en pratique, comme manipulation des organes en vue d'atteindre un horizon particulier de santé. Voilà. Cet horizon particulier de santé, qui est aussi bien psychique que physique, porte un nom très particulier aujourd'hui, c'est l'amour. Voilà. Donc il y a une espèce de. Dans le lien entre le sexe, au sens sexuel, donc au sens de manipulation des organes, l'horizon de l'amour, l'idée de santé, il y a une espèce comme ça de chose, de continuum. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on sorte de ce continuum. Moi, j'aimerais bien que l'on considère, je pense que l'on devrait pouvoir considérer la sexualité sous l'angle... j'ai confondu les distinctions. J'aimerais bien qu'on puisse considérer la sexualité sous l'angle du sexuel, et pas justement du Geschlecht, c'est-à-dire de la manipulation. La manipulation des organes. Et voilà. Si c'est possible, alors... Vraiment, il y a toute une série de conséquences énormes qui sont, enfin énormes, aussi bien énormes E-N-O-R-M-E que énormes H-N-A-U-R-M-E, qui s'en laissent déduire, quoi. Il faut suivre le raisonnement, mais qui s'en laissent déduire, comme par exemple, qu'en matière de jouissance, le genre est indifférent. Corollaire de ça d'ailleurs, en matière de jouissance, l'homosexualité n'existe pas, ou... Enfin, toute une série de propositions qui sont comme ça, qui sont tout à fait formelles, dont certaines, à les énoncer out of the blue, peuvent paraître extrêmement, à la limite de l'embarrassant. Quoi. Le naturalisme du côté de l'érotisme, je crois que la pornographie, en l'occurrence, est du côté de l'artifice. Et donc du côté de l'invention, des fabriques possibles, et des fabriques illimitées et infinies. Là où l'érotisme ne peut, en tant qu'il est né, et en tant qu'il est là, qu'il est naturalisme, être que fini et limité. Fini par le puritanisme et limité par l'amour.